dans la nouvelle création de Raphaël Imbert comme compositeur associé au TDB, Théâtre Briançonnais. On se retrouve ici le jour avant la première et on est ici ensemble évidemment avec Raphaël Imbert et avec Franck-Éric Rétière. Alors pour la création, on est avec Raphaël Imbert et il a fait sûrement avec la compagnie de Nine Spirit cette nouvelle création Kenneth Arnold Story, et voilà, tu vas nous raconter peut-être quelques secrets avant la sortie, Raphaël.
Oh là, quelques secrets avant la sortie, non, parce que sinon on va tous se faire enlever par les extraterrestres et que on risque nos vies par rapport aux secrets qu'on préserve ici dans le Briançonnais avec tous ces projets-là. Non, trêve de plaisanterie, c'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps et que je n'ai pu faire depuis les années que je rêve de le faire que grâce au partenariat de compositeurs associés au Théâtre du Briançonnais. Avec toute l'équipe du théâtre qui est merveilleuse, avec le soutien de Franck-Éric sur la façon dont on a défendu ce projet sur 2 ans. Un petit pincement au cœur parce qu'on commence à arriver vers la fin de ce dispositif, mais bon, on a encore de belles choses à venir, et puis ce concert pour clôturer ce sublime festival qui est Attitude Jazz Festival. On avait ouvert l'année dernière, on clôture cette année, symboliquement c'est quand même très fort, avec un projet complètement fou, c'est-à-dire que il y a quand même à un moment donné, quand on vous donne le choix d'être compositeur associé ou artiste associé d'une structure, parmi tous les projets que vous proposez, il faut toujours marquer son territoire en quelque sorte, et en faire un que normalement le programmateur ici présent aurait totalement refusé si je l'avais présenté tout seul. Là j'avais plein de trucs, mais là quand même un truc sur les ovnis, sur les extraterrestres et tout ça. En fait c'est un projet que j'ai depuis très longtemps, et le premier à avoir dit oui c'est Franck-Éric, parce que avant quand je le présentais, les gens ils me prenaient pour un fou. Et il y a 2 raisons majeures pour lesquelles j'ai envie de faire ce sujet, parce que d'abord ça parle d'une époque et d'une situation culturelle qui nous concerne tous. Ça, on est en 1947, on a un moment où l'histoire de la musique change complètement. D'ailleurs, on pourrait y voir un lien de cause à effet, peut-être, c'est ce qu'on va raconter demain. C'est le moment où le jazz devient bebop, le swing devient bebop, c'est le moment où la country devient bluegrass, c'est le moment où le blues devient du rock. Donc il se passe un truc en 47. Et il se passe un truc en 47, c'est que Kenneth Arnold voit au-dessus des montagnes de l'Oregon, dans son petit avion, 9 objets volés à très 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 grande allure, à une allure qui à l'époque était totalement irréalisable, soi-disant par la technologie humaine. Et par la magie des nouveaux médias qui sont les ancêtres d'Internet et qui sont créés en 47 justement, donc c'est une histoire aussi de la médiation de la culture que ça raconte, par la magie des médias, ce témoignage étrange devient un phénomène d'abord américain et très vite mondial en l'espace de quelques jours. C'est-à-dire que tout le monde veut savoir ce qu'il a vu, et tout le monde a vu quelque chose ressemblant à ce qu'a vu Kenneth Arnold. Et le personnage de Kenneth Arnold, d'ailleurs, en lui-même, il est intéressant. C'est un des personnages mythiques du XXe siècle. Vous savez, quand vous regardez David Vincent et les Envahisseurs, le personnage de David Vincent, c'est Kenneth Arnold. C'est pris sur le modèle de Kenneth Arnold. Donc, en fait, ça raconte notre époque, ça raconte notre imaginaire, ça raconte notre construction scientifique, pseudo-scientifique, et puis le rôle de la culture et la façon dont c'est médiatisé. En fait, ça raconte tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, d'une manière, peut-être avec quelque chose de beaucoup plus rapide. Ce qui a pris quelques jours pour Kenneth Arnold prend quelques secondes maintenant, mais il n'empêche que c'est le début de la médiatisation globale des faits culturels, et c'est ça que ça raconte. Et on est pendant la guerre froide, on est pendant les moments de tension, et l'idée de la peur de l'étranger, qui a été d'abord la peur du russe, la peur de l'extraterrestre, et qui en ce moment revient à la peur de l'étranger, je trouve qu'il y a quelque chose de très parlant aussi pour ce que l'on vit, de très parlant pour ce que l'on fait ici, dans le cadre de ce dispositif. Je veux dire, c'est quand même créolisons le monde, il se créolise au-delà même peut-être de notre planète, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que, après tout, si on arrive un jour à réellement sortir de notre monde, qu'est-ce qu'on fait de ces idées de partage, d'échange et tout ça? On va dire la production de science-fiction en l'heure actuelle parle plutôt de guerre et de confrontation, mais malgré tout, ça parle de ce que l'on vit, nous, à notre petite échelle. Donc, et c'est pour moi très intéressant de parler d'altérité, du mélange, de la créolisation, hors du débat national qui est quand même extrêmement tendu en ce moment. C'est une façon de le raconter de façon fantasmagorique, festive, complètement imaginaire, complètement délirante. Et on assume ce côté-là. musicalement, ça se traduit par, justement, comme je vous disais, bah, des références au patrimoine musical, mais en même temps, en le jouant avec des sons, avec des attitudes qui n'ont rien à voir avec la façon dont on devrait jouer ces choses-là. Enfin, c'est un peu comme si on jouait de la musique baroque avec des synthétiseurs. C'est un peu ça ce qu'on va faire demain. Et donc, une manière aussi de gérer l'altérité, hein, c'est que c'est aussi musicalement. Et puis, c'est juste une façon de raconter moins dramatique, moins inquiète, moins préoccupée de raconter cette relation à l'autre qui m'est chère dans tout le travail que je fais, et surtout dans tout le travail qu'on a défendu ensemble avec l'équipe du théâtre, avec l'équipe du festival et avec Franck Eric. Donc c'est, même si on s'est pas encore fini, mais pour clôturer ce festival, j'avais vraiment envie de proposer un truc complètement délirant, et je vais terminer avec un truc très local. Je rappelle que vous êtes dans une région où il y a le Bac Hubert. Moi, le Bac Hubert, ça a été la révélation, en fait, extraterrestre de ce dispositif et de ma présence ici dans le Briançonnais. Parce que le Bac Hubert, c'est quand même une danse qui existe depuis, on va dire, la légende dit, depuis le temps de César. Vous remarquerez que les figures faites par les danseurs hommes du Bac Hubert ne sont visibles que du ciel. Et que d'ailleurs, au-dessus des danseurs, il y a toujours une couronne qui symbolise quelque chose dans le ciel qui ressemble, ma foi, énormément à une soucoupe volante. J'en dirai pas plus, parce que là, je pense que je risque, non pas les foudres des complotistes, mais de l'association des amis du Bac Hubert, ce qui serait déjà très, très grave, puisque je les aime beaucoup et que c'est une tradition magnifique. Mais justement, les traditions, elles sont faites aussi pour être interrogées, réinterprétées et pourquoi pas, transformées.
Et tu, Raphaël Imbert, tu embarques dans ta surcoupe, absolument, évidemment, tous les artistes Nine Spirit, et entre autres Marion Rampal au chant, et tu as trouvé une autre femme qui va être présente, qui s'appelle Laure Sanchez, et que ça va être une révélation pour nous aussi, parce que moi je la connais pas, et ça va être quand même assez intéressant, ouais.
Ben, en fait, c'est très important parce que c'est bien beau de parler de l'altérité, de la créolisation et tout, en essayant de tourner autour, enfin, en essayant de ne pas se confronter à notre propre problème dans le milieu du jazz, qui est un milieu extrêmement misogyne, qu'il a toujours été. Et d'ailleurs, je bats ma coulpe parce que j'avoue que beaucoup de... C'est pas forcément quelque chose sur lequel j'avais énormément travaillé avant, même si ça me préoccupait énormément. On est quand même encore en 2020... dans un milieu qui se dit que, oh, bah, après tout, c'est pas un métier pour les femmes, ou ce genre de choses. J'entends encore beaucoup ce genre de choses. Maintenant que je suis directeur du Conservatoire de Marseille, en plus, j'ai bien pu constater que dans la musique classique, qui est censée être plus conservatrice, bah, ça fait, en fait, 30 ans qu'eux, ils ont fait des efforts, et que les efforts, payent. C'est-à-dire que les talents, ils sont partout. Il n'y a pas de frontière aux talents, hein. Faut quand même les, et donc, ça veut dire que s'il n'y avait pas de femmes dans le jazz jusque-là, ou en tout cas très peu, ça veut dire qu'on a éliminé autant de talents. Qui est gravissime. Alors là, je prends un peu des grands mots et tout ça. La rencontre avec Laure, d'abord, c'est une excellente musicienne. C'est une jeune musicienne, c'est la nouvelle génération. Elle est issue du centre de musique Didier Locoud, avec qui on travaille activement quand je joue au Bal Blomé, où je joue tous les 15 jours avec Joanne Fargeau. Et en fait, en travaillant avec cette école, qui est une école maintenant supérieure, hein, créée par Didier Locoud, où ils font un effort naturel, parce que ça leur coûte rien, hein, ils ont pas à chercher bien loin. Mais en fait, ils sont en train de révéler une génération entière de femmes instrumentistes absolument remarquables. Parmi elles, Laure Sanchez, qui a été une vraie révélation. On a fait beaucoup de concerts au Bal Blomé avec elle, et qui chante en plus remarquablement bien. Je ne sais pas si on aura l'occasion demain de le découvrir. Après tout, je vous laisse un petit peu de surprise. Mais c'est quand même quelque chose qui est très important, parce que, après tout, d'ailleurs, même, j'allais dire, je suis contre les quotas, c'est même pas vrai. Après tout, il y a un moment donné où il faudra quand même qu'on se pose la question. Mais là, naturellement, j'avais envie de jouer avec des musiciens, dont Laure Sanchez. Et c'est important qu'on commence... mais il y a d'autres noms, hein, et on a fait pas mal de projets, on est en train de monter pas mal de créations avec d'autres jeunes musiciennes qu'on a découvert dans ce cadre-là. Je pense à Elvire Jouve, je pense à Alix, à pas mal de gens, pas mal de jeunes femmes. Et c'est d'autant plus frappant et angoissant de se dire qu'à quelques générations après, par définition, ces talents existaient et qu'on les a laissés, et qu'on l'a, il y a forcément une volonté consciente ou inconsciente, peu importe, qui a fait qu'on s'est passé de ces talents-là, et donc il faut rattraper un peu le temps perdu.
Merci Raphaël.